à Washington.
Bonsoir à tous, c'est Eric Manilakidza avec vous dans cette édition de 17h30 temps universel. D'abord, les titres de cette édition. Les Maliens se rendent aux urnes dimanche pour élire un nouveau président. 23 candidats en lice.
Et ma motivation pour les candidats, c'est de quelqu'un d'honnête, de sincère, respectueux, qui est prêt à faire sortir le Mali dans cette galère.
La bande sahélienne, très touchée par l'insécurité alimentaire et la malnutrition, est dans le sud du Niger. Musulmans et chrétiens pris dans une même concession depuis plus de 60 ans. Au Burundi, interdit de devenir mère ou père en étant encore sur le banc de l'école. Le risque, candidat à l'école des métiers.
Ça donne plus d'opportunités, plus de possibilités aux élèves concernés de pouvoir s'épanouir davantage qu'à travers des filières traditionnelles d'enseignement général.
Et début de restitution des dépouilles de militaires américains tombés pendant la guerre de Corée il y a plus de 60 ans. Le président Donald Trump remercie Kim Jong-un. Dans 10 minutes, l'économie et les sports après le journal. Le Mali élit son président ce dimanche. La campagne électorale prend fin ce vendredi. Un scrutin aux enjeux cruciaux liés principalement à l'insécurité dans le nord du pays et aux violences intercommunautaires dans le centre. À Bamako, le reportage de l'envoyé spécial de VOA Afrique, Jacques Aristide.
Ce sont plus de 8 millions de Maliens qui sont appelés aux urnes ce dimanche. Dans la capitale, les Bamakois ne semblaient pas être gagnés par la fièvre électorale en ce dernier jour de campagne. Il reste que pour des observateurs, il s'agit d'une élection cruciale mais aussi à haut risque, avec comme principal enjeu la sortie de crise, une crise qui traîne les séquelles du coup d'état militaire de 2012 contre Amadou Toumani Touré, découlant notamment de l'insurrection Touareg du Mouvement National pour la Libération de l'Azawad et des djihadistes d'Ansar Dine. Il n'y a rien que quelques jours, des affrontements ont à nouveau éclaté à Tombouctou dans le nord entre communautés arabes, Touareg et Noirs. Dans le centre, ce sont les ethnies Dogon et Peul qui s'entretuent. Dans un entretien à VOA Afrique à Bamako, le directeur général de l'administration du territoire affirme que toutes les dispositions ont été prises pour assurer le bon déroulement du vote face au péril que le gouvernement veut annihiler, d'après Souleymane Amadou Sangaré, qui assure par ailleurs que la livraison des cartes d'électeurs a atteint un niveau satisfaisant. Il affirme également que la liste électorale utilisée pour émettre ces cartes a fait l'objet d'un audit indépendant rejetant les accusations de l'opposition quant à une éventuelle fraude électorale. De Bamako au Mali, Jacques Aristide pour VOA Afrique.
Toujours au Mali, 17 civils peuls ont été tués mercredi dans le centre du pays. L'attaque a été attribuée à des chasseurs traditionnels. Un précédent bilan s'est élevé à au moins 3 morts. Au Nigeria, nouvelle démonstration de force de Boko Haram contre l'armée. Les insurgés ont attaqué une base militaire proche du nord-est du pays avant de s'en prendre au poste de police locale. Ils étaient à bord d'une trentaine de véhicules. Le bilan des victimes est encore flou, mais les corps des deux policiers et d'un civil ont été retrouvés. 9 habitants ont été blessés par des balles perdues. En Guinée, un glissement de terrain a tué ce jeudi 3 jeunes dans le nord-est du pays après de fortes pluies. Parmi eux, 2 élèves qui cherchaient de l'or pour financer leur rentrée scolaire. En République centrafricaine, une semaine après son retour au pays, le président de l'Assemblée nationale brise le silence. Abdou Karim Mekasoa a dénoncé ce vendredi des complots visant à le destituer. Absent de la RCA pendant près de 4 mois pour des raisons sanitaires, le chef du Parlement a été plusieurs fois accusé d'actes visant à déstabiliser le pays. Suivez Abdou Karim Mekasoa.
En mon absence, qu'est-ce que vous n'avez pas entendu ? On vous a dit que j'avais fui le pays par peur d'être arrêté ou par peur d'être destitué. Que j'étais allé préparer un coup d'État. Que j'étais parti en détournant l'argent de l'Assemblée nationale. Que, de loin, j'ai financé les opérations de déstabilisation du régime. On a même été jusqu'à annoncer que j'étais mort. Jusqu'à présent, j'ai gardé le silence, non pas par faiblesse d'esprit, chers compatriotes, croyez-le bien, mais parce que je crois dans les vertus du dialogue, parce que j'estime que c'est mon métier d'homme d'État d'apaiser les tensions.
Abdoukarim Mekassoua, président de l'Assemblée nationale à Bangui, au micro de Freeman Sipila. La Cour suprême de Côte d'Ivoire a cassé le jugement d'acquittement de l'ex-première dame Simone Gbagbo. Elle a renvoyé Madame Gbagbo devant une autre cour d'assises sans donner de délai. Les motivations de la décision de la Cour suprême n'étaient pas encore connues. Simone Gbagbo n'avait pas été libérée après son acquittement. Elle purgeait déjà et purge encore une peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État prononcée en 2015. En RDC, le procureur de Goma, Dauphin Mawasso, a classé sans suite l'enquête sur la mort d'un activiste pro-démocratie dans l'incendie de sa maison. Monsieur Mawasso a déclaré qu'il n'y a aucun prévenu à poursuivre. Il a estimé que l'incendie était tout simplement un incident malheureux. L'explosion de la batterie qui alimentait un système de panneaux solaires avait provoqué l'incendie dans la nuit du 9 au 10 juin. Le gouvernement de Kinshasa revient sur sa décision de restreindre les visas aux Français et aux Belges. Décision rendue publique quelques heures plus tôt par le ministre en charge des Congolais de l'étranger, Emmanuel Ilunga. Les détails de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Tenant compte du dialogue en cours, notamment sur le traitement des dossiers de visa, les instructions relatives au principe de réciprocité sont retirées, pouvait-on lire dans un communiqué destiné aux ambassadeurs congolais signé jeudi par le ministre en charge des Congolais de l'étranger, Emmanuel Ilunga. Un communiqué qui contredit un autre signé par le même ministre 48 heures plus tôt et qui disait, je cite, « Il est constaté de manière non équivoque que les ambassades de Belgique et de France n'accordent plus que des visas humanitaires ou pour soins médicaux aux ressortissants congolais. » Depuis la fermeture de la maison Schengen. Il est demandé à toutes nos représentations diplomatiques d'appliquer les mêmes dispositions par principe de réciprocité. Fin de citation. Deux messages contradictoires qui ont valu de nombreuses critiques au ministre Emmanuel Ilunga, mais qui laissent transparaître clairement la volonté de Kinshasa et de Bruxelles de normaliser leurs relations diplomatiques rompues depuis janvier dernier, entraînant notamment la fermeture de la maison Schengen à Kinshasa. Et pour confirmer ce début de normalisation, le chargé d'affaires de Bruxelles à Kinshasa affirmait récemment que les canaux de communication entre la Belgique et la RDC étaient grands ouverts et qu'un dialogue était en cours. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Tchad, l'insécurité alimentaire est atteint un niveau alarmant. Cette année, le PAM apporte une assistance alimentaire et nutritionnelle à 30% de personnes supplémentaires que l'an dernier. Sur un peu moins de 15 millions d'habitants, le pays compte 1 million de personnes en situation de crise alimentaire.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Donald Trump dément une nouvelle fois avoir eu préalablement connaissance d'une réunion pendant la campagne présidentielle entre son fils Don Junior et une avocate russe offrant des informations compromettantes sur Hillary Clinton. C'est pourtant ce qu'affirme l'ancien avocat de Donald Trump. Les détails de Nicolas Pinon.
Michael Cohen, l'ex-avocat personnel du président, qui est tombé en disgrâce et multiplie les révélations gênantes pour son ancien client, affirme que ce dernier a approuvé la tenue de cette réunion le 9 juin 2016 à la Trump Tower à New York, siège de la campagne de Donald Trump. « Je ne savais rien de la rencontre avec mon fils Don Jr. », affirme pour sa part le président américain sur Twitter. Il accuse Michael Cohen d'inventer des histoires pour se tirer d'une sale affaire qui n'a rien à voir. Le président américain a toujours dit ne rien avoir su à l'époque de cette réunion, dont l'existence est avérée et pour laquelle Donald Trump Jr. a été entendu devant le Congrès. La campagne Trump, elle, en a toujours minimisé la portée. La révélation 9 mois après le scrutin de la tenue de cette rencontre avec une jeune femme soupçonnée d'être proche des services de renseignement russes avait fait l'effet d'une bombe dans le contexte d'une enquête fédérale sur une éventuelle collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et Moscou, des soupçons qui empoisonnent la présidence américaine. Le procureur spécial Robert Mueller mène une enquête pour établir s'il y a eu une collusion entre Moscou et l'équipe de campagne de Donald Trump lors de l'élection présidentielle de 2016.
Le président Donald Trump a remercié le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un d'avoir tenu parole pour le rapatriement des dépouilles de militaires américains morts pendant la guerre de Corée il y a plus de 60 ans. Israël a rouvert vendredi les accès à l'esplanade des mosquées dans la vieille ville de Jérusalem après avoir bouclé le site plusieurs heures. C'était en raison de heurts entre fidèles palestiniens et forces de l'ordre israéliennes après la prière du vendredi. N'est-ce pas, Abdelrahman Tia?
Le site a été fermé pendant environ 4 heures avant d'être rouvert. Selon la police israélienne, des heurts ont éclaté après la prière du vendredi, quand des émeutiers ont commencé à lancer des feux d'artifice vers la police. L'autorité religieuse musulmane en charge du site historique avait confirmé que les accès à l'esplanade sur laquelle se trouve notamment la mosquée Al-Aqsa, troisième lieu saint de l'islam, avaient été fermés. Elle avait publié des images vidéo montrant les forces de police lancer des grenades lacrymogènes pour disperser des Palestiniens. L'esplanade des mosquées, ou mont du temple pour les juifs, est un point de friction fréquent entre Palestiniens et forces de l'ordre israéliennes. Elle est située à Jérusalem-Est, dans la partie palestinienne de la ville sainte, occupée et annexée par Israël. En juillet 2017, la décision israélienne d'installer des détecteurs de métaux pour contrôler les accès à l'esplanade avait provoqué plusieurs semaines d'émeutes. Dans le même temps, le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a annoncé ce vendredi la construction de 400 nouveaux logements dans la colonie de Cisjordanie occupée, où un Israélien a été tué la veille par un assaillant palestinien. Pour lui, c'est la meilleure réponse au terrorisme.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde d'aujourd'hui sur VOA Afrique, voafrique.com. La minute est co-signée Irène Ongbo.
Un forum économique ivoiro-burkinabé s'est tenu jeudi à Yamoussoukro sous la présidence des deux premiers ministres. De 2013 à 2017, les échanges commerciaux entre ces deux pays sont passés de 255,567 milliards de francs CFA à 319,741 milliards de francs CFA, soit une hausse de 25% selon le ministre ivoirien du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME. À Londres, le cacao a touché jeudi 1668 livres sterling, à son plus bas depuis un mois et demi, tandis que la cotation de New York a atteint mercredi jour 2233 dollars, son plus bas en près de 5 mois. Les analystes gardent un œil sur la météo en Afrique de l'Ouest, d'où provient 60% de la production mondiale. Si la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, décide de ne pas relever ses prix pour refléter la baisse des cours internationaux, le marché pourrait être en déficit car les fermiers ivoiriens produiront moins alors même que la demande mondiale est robuste, ont prévenu les analystes de Rabobank. Au Cameroun, en signant un nouveau partenariat le 26 juillet avec Express Exchange, une société de droit camerounais spécialisée dans le transfert d'argent, WorldRemit, leader du transfert d'argent digital, a révélé que 25% des transferts d'argent vers le Cameroun via ces plateformes proviennent de la diaspora domiciliée aux États-Unis. Ali Dangote, industriel nigérien, a reçu un prêt de 650 millions de dollars d'Afreximbank pour financer un projet dans le but de booster ses actifs en mettant un frein aux importations de pétrole raffiné. Il espère ainsi ne plus tomber dans les pénuries de carburant.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports. Ce soir, c'est Nicolas Pinon. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Football d'abord avec cette nouvelle journée de Ligue des Champions en Afrique.
Les Zambiens du Zesco United en déplacement chez le Primero de Agosto en Angola. Difa El Jadida du Maroc face à Sétif, c'est un club algérien. Les Tunisiens de l'Étoile Sportive du Sahel qui accueillent Mbabane du Swaziland. Les Mamelodi Sundowns qui reçoivent l'AS Togo Port. Et la suite demain, Camp à la City face à l'Espérance de Tunis. Township Rollers du Botswana face à Al Ahly. Le Mouloudia Club d'Alger face au tout-puissant Mazembe. Enfin, le Wydad de Casablanca qui accueille Oroya de Guinée.
Et le gardien nigérien Ikeme reprend sa retraite sportive, n'est-ce pas?
Le gardien international de Wolverhampton, Carl Ikeme, 31 ans, a annoncé mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel après avoir lutté pendant des années contre une leucémie aiguë. Le mois dernier, Ikeme avait déclaré que sa maladie était en rémission totale, mais qu'il était trop fragile pour poursuivre sa carrière. Depuis 2003, il a disputé plus de 200 matchs, notamment en deuxième division anglaise, avec Wolverhampton, promu en première ligue cette saison. Ikeme, c'était aussi un joueur de l'équipe nationale nigériane, avec 10 sélections entre 2015 et 2016. Lors du Mondial 2018, il avait été nommé 24e joueur des Super Eagles à titre honorifique.
Nicolas, un mot sur la suite des ennuis judiciaires de Cristiano Ronaldo avec le fisc espagnol.
La star devra bien payer près de 19 millions d'euros au fisc espagnol pour mettre fin aux poursuites d'évasion fiscale le visant. C'est ce qu'annonce le parquet de Madrid. Le préaccord conclu le mois dernier et officiellement entériné par le fisc prévoit également une peine de prison de 2 ans que Ronaldo ne purgera pas. Les peines allant jusqu'à 2 ans de détention n'étant généralement pas appliquées en Espagne. L'ancien crack du Real Madrid de 33 ans vient de s'engager, vous le savez, avec la Juventus Turin pour 4 ans.
L'athlétisme pour terminer, Nicolas.
Nairobi organisera en 2020 les championnats du monde d'athlétisme des moins de 20 ans. Selon la Fédération internationale d'athlétisme, le Kenya avait déjà organisé les mondiaux des moins de 18 ans en 2017.
Et c'était l'espoir de Nicolas Pinot. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Eric Manerakiza, de retour avec vous. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Au Mali, 30 000 hommes seront déployés sur l'ensemble du territoire pour sécuriser la présidentielle de ce dimanche. 8 millions de Maliens sont appelés aux urnes pour départager 23 candidats. 12 000 centres de vote sont prévus. Cependant, certains candidats continuent de contester le fichier électoral et la situation sécuritaire du pays ne permet pas l'organisation du scrutin sur l'ensemble du territoire. Les détails de Jacques Aristide, notre envoyé spécial à Bamako.
C'est une campagne jugée terne qui se termine ce vendredi soir. Les Bamakois vaquent à leurs occupations habituelles, des activités ralenties par les sempiternels embouteillages. Nous sommes ici à la place Cannes ACI 2000, où sont installés les quartiers généraux de plusieurs candidats, des candidats en nombre de 24, dont une femme, qui tente de mettre les bouchées doubles pour séduire l'électorat en cette dernière ligne droite.
Pour aller voter Dimas, c'est pour le travail de jeunes et de sécurité du Mali et de la paix au Mali.
Et ma motivation pour les candidats, c'est de quelqu'un d'honnête, de sincère, respectueux, qui est prêt à faire sortir le Mali dans cette galère, qui est prêt à faire sortir la jeunesse dans le chômage et qui est prêt à mettre le pays dans la sécurité.
Les enjeux sont certes importants. Sékou Tangara est directeur de l'information à Africable Télévision.
Pour moi, il n'y a pas deux enjeux, il y en a un seul, la sortie définitive de crise, fermer la parenthèse de la crise multidimensionnelle que le Mali a connue à la faveur du coup d'État de 2012, puisqu'on a l'impression que la transition continue toujours.
L'opposition dénonce un risque de fraude dû, d'après elle, aux listes électorales utilisées pour émettre les cartes d'électeurs. Une procédure qui a donné lieu à des doublons, mais le gouvernement dément et insiste pour dire qu'il n'y a qu'un fichier électoral et pas deux. Souleyman Amadou Sangaré, directeur général de l'administration du territoire.
Le fichier électoral qui a fait l'objet d'audit par l'Organisation internationale de la francophonie, c'est ce fichier électoral qui a servi à imprimer les cartes d'électeurs en République du Mali. Donc je ne vois vraiment pas de tout par rapport au fichier, au seul fichier qui est en République du Mali.
Les autorités donnent également des garanties au niveau de la sécurité qui va être assurée, disent-elles, lors du vote de dimanche. Les forces de sécurité vont déployer des éléments additionnels.
En le faisant, le gouvernement sait les périls auxquels il est appelé à faire face. Cela veut dire que les dispositions sécuritaires vraiment sont prises. Que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, l'État malien est conscient vraiment de ses responsabilités en matière sécuritaire. Soyez tranquille par rapport à cet aspect.
Les premiers résultats provisoires devront être connus mardi, mais des retards ne sont pas à écarter d'après des observateurs. Un éventuel second tour est prévu pour le 12 août. Jacques Aristide,
ce soir, dans VOA. À votre avis, la présidentielle malienne du 29 juillet 2018. 24 candidats au départ, y compris le président Ibrahim Boubacar Keïta. Ce scrutin se déroulera sur fond de controverse, certains candidats remettant en cause la fiabilité du fichier électoral. Quelques soucis également au plan sécuritaire dans certaines régions du pays. Timothée Donangmaï, en votre compagnie. Vos réactions sur la présidentielle malienne ce soir, en direct à partir de 18h temps universel, en appelant au 001-202-205-2633. Commentez et laissez vos numéros sur notre page Facebook et nous vous rappellerons. À ce soir dans À votre avis.
En Ouganda, l'opposition est vent debout. Elle dénonce la suppression par la justice de la limite d'âge fixée à 75 ans pour être candidat à la tête de l'État. Pour elle, le président Yoweri Kaguta Museveni s'achemine vers une présidence à vie. Bagassi Koura a joint Kibel Beloka, directeur de publication du journal Les Coulisses dans l'Est de la RDC. Il explique que Museveni bénéficie d'une bonne popularité au sein des couches rurales.
Le président Museveni se considère comme le sauveur de l'Ouganda. C'est lui qui a mis l'économie de l'Ouganda sur les rails, notamment l'autoroute entre la capitale Kampala et l'aéroport de Ntebe. Donc, ça ne peut pas surprendre.
Il a profité d'une certaine popularité alors?
Bon, effectivement, derrière du pays, dans des villages, il a quand même une popularité par rapport aux opposants. Il a quand même, comme je l'ai dit, remis l'économie de l'Ouganda sur les rails. Il a des projets qui lancent. Il n'a pas encore un répondant comme ça au niveau des populations rurales. En tout cas, au niveau des populations rurales, il est l'homme qu'il faut et l'homme qui doit conduire l'Ouganda jusqu'à la grande évolution. Il a lancé des projets en désordre parce qu'il a lancé des projets de construction d'usines de pétrole. Il a lancé beaucoup de projets et vous savez que son grand opposant décide pratiquement de fenestrer. Il n'a plus assez de poids pour résister. Il passe pratiquement comme le sauveur de l'Ouganda.
Alors, le sauveur de l'Ouganda, ce qui veut dire que l'opposition a du pain sur la planche?
L'opposition a du pain sur la planche. L'opposition n'a pas gros chapitre. À un moment d'ailleurs, l'opposition... On a semblé croire que l'opposition devait sortir de la bourgeoisie militaire. Là aussi, il a le contrôle de la situation et avec son officier qui est maintenant bien placé, qui a mis le sien. En fait, il a effacé la vieille équipe avec laquelle il était dans le maquis et l'opposition a du mal à émerger. Donc, vraiment, les opposants en Ouganda ne savent pas s'affirmer devant la population qui pense dire que M. Veni, c'est l'homme qu'il faut.
Quel est donc le sort de l'opposition en Ouganda? Est-ce qu'elle est beaucoup plus libre qu'ailleurs ou est-ce qu'elle se retrouve un peu face à un régime un peu trop fort?
Bon, c'est un régime fort, et comme on dit, c'est le patrimoine d'une main de fer dans des gants de velours. C'est un régime fort qui fait contrôler pratiquement toute la situation, mais qui lâche certaines choses en donnant l'impression qu'en fait, tout le monde est libre de faire n'importe quoi. Et là, il ne sert pas trop pour tous les services, mais il essaie de donner l'impression qu'en Ouganda, il y a la liberté. Bon, c'est vraiment la démocratie, mais bon. Son parti est très fort, il a ouvert l'espace à d'autres partis, mais qui n'ont pas pignon sur rue, quoi. Et là, il peut aller jusqu'à sa mort.
Nikez Kibel Beloka, directeur de publication du journal Les Coulisses dans l'Est de la RDC.
Ce soir, dans À votre avis, la présidentielle malienne du 29 juillet 2018. 24 candidats au départ, y compris le président Ibrahim Boubacar Keïta. Ce scrutin se déroulera sur fond de controverse, certains candidats remettant en cause la fiabilité du fichier électoral. Quelques soucis également au plan sécuritaire dans certaines régions du pays. Timothée Bonangmaï en votre compagnie. Vos réactions sur la présidentielle malienne ce soir, en direct à partir de 18h temps universel, en appelant au 001 202 205 2633. Commentez et laissez vos numéros sur notre page Facebook et nous vous rappellerons à ce soir dans À votre avis.
Dans une petite ville du sud du Niger, musulmans et chrétiens pris dans une même concession depuis plus de 60 ans, une cohabitation qui se vit dans la plus grande harmonie et que nous fait découvrir Haruna Maman Bako. Son récit est présenté par Irénée Herman Ungbo.
Marché de Bernin Koni dans la partie sud du Niger. Ici, chrétiens et musulmans cohabitent dans le respect mutuel de leur religion. 98% des habitants de Bernin Koni sont musulmans, mais cela ne les empêche pas de partager leur cadre de prière avec les fidèles chrétiens. El Hadja Oumarou aussi, ce fidèle musulman, s'en réjouit.
C'est vraiment intéressant d'avoir une église et une mosquée sur le même terrain, côte à côte. Les gens adorent leur Dieu dans la paix, sans conflit.
Une tolérance religieuse établie sur le respect et la confiance mutuelle, selon Admi Pelagi, une fidèle chrétienne.
Sincèrement, nous femmes chrétiennes ici, à Bernin Koni, vivons paisiblement. Nous n'avons pas de différence majeure avec nos voisins.
Pour Roumana Tounourou, une fidèle musulmane, partager le même espace de prière permet de rapprocher les deux communautés.
Parfois, ils nous invitent à leur cérémonie. Même si nous avons une compréhension différente de la religion, cela ne peut pas nous empêcher de rester ensemble.
Moukaïla Sorka est le maire de Bermenkoné.
Il n'y a aucun problème entre musulmans et chrétiens à Bermenkoné. C'est notre volonté de construire sur la paix et la tranquillité.
Cette tranquillité a été parfois perturbée, notamment par de jeunes musulmans qui avaient endommagé l'église en 2011 lors de sa rénovation. Mais la crise a vite été maîtrisée par les leaders religieux musulmans, explique Malam Mahamadou, l'imam de Bermenkoné.
C'était un petit malentendu entre certains jeunes qui a abouti au trouble. Nous ne pouvions pas tolérer ça. Cette région est connue pour la paix et l'harmonie. Tout conflit a toujours été résolu grâce à la communication. Cela permet une meilleure compréhension.
Lorsque les troubles ont commencé, j'étais optimiste qu'on aboutirait à une solution parce que les auteurs ne connaissaient pas vraiment ce que c'est d'être musulman.
Depuis cet incident de 2011, les autorités locales, les responsables religieux et les personnes ressources de divers niveaux ont travaillé ensemble pour promouvoir à Bermenkoné le respect de la religion de l'autre. Après sa rénovation, l'église a été baptisée Notre-Dame du Dialogue afin de refléter l'engagement de cette ville à promouvoir la tolérance religieuse.
Au Burundi, bientôt les jeunes filles qui tombent enceintes au cours de leur scolarité ne seront plus admises en classe. C'est une décision de la ministre de l'Enseignement secondaire. Ces jeunes filles seront obligées de se faire inscrire dans une école des métiers ou suivre une formation professionnelle. La mesure concerne également les futurs papas. Cette mesure continue de provoquer des divergences au sein de la population burundaise. De son côté, le gouvernement affirme que cette mesure est salvatrice. Le reportage est signé Christophe Nkurunziza à Bujumbura.
Une circulaire du ministère de l'Enseignement secondaire et technique indique que toute fille ayant été victime de grossesse ou contrainte au mariage étant au niveau du fondamental ou post-fondamental, de même que les garçons futurs papas n'ont plus le droit de réintégrer le système éducatif formel public ou privé. La même circulaire précise toutefois qu'ils sont autorisés de fréquenter l'enseignement des métiers au-dessus de la formation professionnelle. Cette décision de la ministre Janvier Naira Aja cause un tollé général parmi de nombreuses organisations qui défendent les droits des femmes et des enfants. Ce père de 3 enfants, dont 2 étudient à l'école fondamentale, Jean-Marie Ndouayo, ne comprend pas les bienfaits de cette mesure gouvernementale.
Le risque, c'est que les garçons qui vont engrosser ces jeunes filles pourront refuser, qui ne sont pas responsables. Il y a les familles qui espéraient une vie meilleure. Les enfants ne vont pas du tout continuer leurs études, alors que les parents ont financé leurs études. 3, il y a des jeunes filles qui deviendront des professionnels de sexe. C'est toujours la perte chez la jeune demoiselle.
Pour le président de la Fédération nationale pour la défense des droits des enfants au Burundi, cette décision est inopportune, pénalisant ainsi les victimes, Jacques Chimirimana.
C'est une décision qui est contraire à différents textes nationaux et internationaux qui prônent les droits de l'homme. En 2016, nous avons dénombré plus de 800 élèves qui sont tombés enceintes. En 2017, nous avons dénombré plus de 1720 écolières et élèves du fondamental et du post-fondamental qui sont tombés enceintes. Et nous avons recommandé de prendre des mesures, des dispositions nécessaires pour décourager ce comportement. Plutôt, il fallait alourdir les sanctions à l'endroit de ces enseignants qui engrossent les élèves, au lieu de victimiser davantage les victimes des grossesses non désirées.
Juma Edouard est porte-parole du ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Il est positif en affirmant que ces enfants pourront étudier après un temps de repos allant jusqu'à 2 ans.
Le fait que ces élèves peuvent être réintégrés dans l'enseignement professionnel, je crois qu'il ne faut vraiment pas négativer ça. Il ne faut pas le négativer, c'est positiver plutôt, parce que là, ça donne plus d'opportunités, plus de possibilités aux élèves concernés de pouvoir s'épanouir davantage qu'à travers des filières traditionnelles d'enseignement général. On n'a aucune obligation de venir étudier après la grossesse. Celles qui voudront bien reprendre, l'opportunité leur est offerte.
Cette décision entrera en vigueur à partir de l'année scolaire 2018-2019, mais plusieurs ONG locales et internationales dénoncent quotidiennement une mesure gouvernementale qui pénalise les victimes jeunes demoiselles. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Ainsi va le monde aujourd'hui à la console d'Anne Crafton, la mise en onde de Lionel Gahima, Eric Manilakiza avec vous. On reste en contact sur Facebook et sur le site internet. Gardez l'écoute sur les programmes de VOA.
VOA Afrique.